Radio Kapi.
D'abord les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend acte de la démission du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, mais lui demande ainsi que son gouvernement d'expédier les affaires courantes, ce qui veut dire qu'ils vont continuer à gérer les pays sans avoir le plein pouvoir. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre d'une réunion hier mardi au Conseil de sécurité à New York, à l'initiative de la France. À cette occasion, la chef de la MONUSCO a invité les conseils de sécurité à prendre des initiatives nécessaires pour mettre fin à ces conflits. L'invité de ce journal est Omer Kabasse, le président national de la société civile environnementale. Il propose des solutions pour faire face au changement climatique de plus en plus ressenti dans la ville de Lubumbashi. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal. Patience Ngalula vous les présente. Démission hier mardi du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend acte de cette démission, mais demande au gouvernement Samalou Kondé d'expédier les affaires courantes. Dans un communiqué officiel émanant du directeur des cabinets du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi motive sa décision par la situation particulière que traversent les pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement. Ce qui veut dire le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et son équipe gouvernementale, chacun en regard de ses fonctions, vont continuer à gérer les pays, mais sans avoir le plein pouvoir, ajoutent les communiqués de la présidence. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Autorisé à expédier les affaires courantes, le gouvernement démissionnaire est soumis à un certain nombre de restrictions. Il s'agit notamment de la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. Les engagements, les liquidations et les paiements de toutes dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel, sont aussi suspendues. Notez aussi la suspension des missions de service à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. Le président de la République interdit par ailleurs au gouvernement démissionnaire de recourir aux opérations de cession, de transfert ou aliénation des actifs de l'État, autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumises à l'autorisation préalable du président de la République, précise ce communiqué signé par le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo.
Comment interpréter la décision du président de la République qui autorise les membres du gouvernement élus, députés et dont les pouvoirs ont déjà été validés d'expédier les affaires courantes? N'est-ce pas là consacrer un cumul des fonctions qui plonge dans l'incompatibilité des fonctions en violation de l'article 108 de la Constitution? Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé ainsi que tous les autres membres de son gouvernement ayant opté pour le mandat des députés nationaux, Giscard Koussema, directeur adjoint des presses présidentielles, explique la décision du chef de l'État. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Voici ce qu'il faut comprendre. 1. La démission du premier ministre chef du gouvernement entraîne ipso facto celle de tout son gouvernement. Deuxièmement, le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a accepté les choix faits par les membres du gouvernement de siéger au niveau des assemblées. Cela dit, le président Félix Tshisekedi n'a pas autorisé le cumul des fonctions. Troisièmement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a évoqué la situation particulière du pays, c'est-à-dire la guerre. Il ne peut pas laisser le pays sans gouvernement pendant cette période. Et c'est pourquoi il a donc demandé à l'équipe démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Ainsi, le Premier ministre et toute son équipe bénéficient du privilège du droit de suspension et du droit de leur mandat parlementaire. Et donc, pendant cette période d'expédition des affaires courantes, ils renoncent à leur mandat de député national et ils vont reprendre le droit après la fin de cette période.
Je le disais au sommaire, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre d'une réunion hier mardi au Conseil de sécurité à New York à l'initiative de la France. Prenant la parole à cette occasion, la chef de la MONUSCO a souligné l'impérieuse nécessité pour le Conseil de sécurité de peser de tout son poids sur les initiatives de paix régionale en cours pour la résolution du conflit qui déchire l'est de la RDC. On écoute Bintou Keïta.
Il est crucial de souligner le risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échouent. Je tiens à saluer les efforts diplomatiques continus du président angolais João Lourenço et je réaffirme l'engagement total de la MONUSCO à soutenir les processus de paix de Luanda et de Nairobi. J'en appelle également vivement au Conseil de sécurité pour qu'il pèse de tout son poids sur les initiatives de paix régionales en cours et veille à ce que toutes les parties respectent le droit international, leurs engagements et œuvrent de manière constructive pour mettre fin à la crise actuelle. Bien que l'escalade du conflit à Goma et dans ses environs soit une préoccupation majeure, la situation sécuritaire dans d'autres zones du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu suscite également une profonde inquiétude pour la MONUSCO.
Entre-temps, au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce mercredi matin dans le groupement Bahumba, en territoire des Nyiragongo. C'est après des violents affrontements entre l'armée et les rebelles du M23, survenus hier mardi dans la soirée dans le groupement Bahumba, en territoire des Nyiragongo. La société civile ainsi que les acteurs locaux affirment que les rebelles ont lancé sans succès des attaques simultanées sur les positions des FRDC sur la colline Kanyamahoro. Les points avec Gabriel.
Les sources concordantes dans les territoires de Nyiragongo confirment que ce sont les rebelles venus en renfort qui ont lancé concomitamment des attaques sur plusieurs positions de FRDC tout autour de la colline Kanyamahoro et ses environs. L'objectif des rebelles était de déloger l'armée de cette colline stratégique dont les versants constituent les portes d'entrée dans les groupements de Kibati et Munigi à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, précise la société civile de Nyiragongo. Sur le front sud, dans les territoires de Masisi, la situation reste imprévisible sur toutes les lignes de front, en dépit d'une accalmie observée depuis ce mercredi matin dans la cité de Sake et ses environs sous contrôle de l'armée. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, la synergie femmes, paix et sécurité et les organisations artisans de la paix demandent au chef de l'État de redoubler d'efforts en vue de la libération de toutes les entités sous occupation de terroristes du M23. Ceci ressort du mémorandum adressé au président de la République que ces organisations ont déposé ce mercredi entre les mains du gouverneur des provinces, le général-major Peter Chirimwami. Les dames vêtues de noir, les pieds nus, signe de deuil, ont marché en procession avant d'atteindre les cabinets du gouverneur. Madame Mouloulou Kisonia Rachel, point focal de la synergie femmes, paix et sécurité, explique cette démarche au micro de Chris Mukand.
Nous aimons notre pays et la RDC doit rester une et indivisible. Il n'y a pas Goma sans Bunagana, il n'y a pas Goma sans Rutshuru. Il n'y a pas Goma sans Sake. Maintenant, ils ont fermé toutes les routes. Donc, pour s'approvisionner même de la nourriture, c'est devenu compliqué. Les déplacés ont laissé leur chat. À Goma, nous dépendons souvent de nos territoires. Alors, nous exigeons à notre président de la République de libérer toutes ces entités occupées par les terroristes du M23. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus les morts. Nous ne voulons plus les tueries. Même les enfants sont tués, c'est compliqué. Vous voyez, les femmes déplacées de guerre sont en train de mettre au monde par terre et nous assistons à des cas des enfants qui meurent à cause du froid, les bébés. Nous sommes fatigués.
Restons toujours dans le Nord Kivu, où le général-major Chiko Chitambwe Jérôme, actuel sous-chef d'état-major en charge des opérations de FRDC, vient d'être désigné commandant des opérations Front Nord basées à Rwindi. Cette localité est située à la limite entre les territoires de Rutshuru et Lubero et ouvrant la voie aux cités de Kiwanja et Kanyabayonga. Dans un télégramme signé le 16 février, le chef d'état-major général de FRDC parle d'une décision pour l'efficacité des opérations de l'armée en cours au sein de la 34e région militaire. Rappelons que l'axe nord, sous contrôle des FRDC, appuyé par la brigade d'intervention de la MONUSCO, reste tout de même menacé par le M23. Cette rébellion occupe à ce jour une partie de la chefferie des Bwito, notamment Tongo, Bambo, Bukombo et Katsitu. Au sud Kivu, l'année 2024 commence dans un climat d'insécurité totale selon l'organisation SAGESEC, Synergie des jeunes pour l'éducation civique. Le mois de janvier dernier a été marqué par des tueries et des enlèvements. Au total, 31 personnes tuées, 27 maisons attaquées par des bandits armés, 9 véhicules braqués, 24 cas d'enlèvement et 6 cas de justice populaire au cours du mois de janvier 2024 dans la province du sud Kivu. C'est ce que révèle l'organisation SAGESEC, Force Vive, dans son traditionnel bulletin. Plus de détails avec vous, Rachel Kiesse.
Dans la rubrique tuerie, cette organisation a enregistré 31 cas au cours du mois de janvier contre 37 au mois de décembre, soit une légère diminution. Le territoire de Calais vient en tête. 27 cas d'attaque de maisons ont été également enregistrés sur l'étendue de la province. Au mois de décembre dernier, 15 cas ont été enregistrés. Comparativement au mois de janvier, on note une augmentation d'attaque de maisons. 9 cas de braquage des véhicules ont été enregistrés au mois de janvier contre 15 au mois de décembre. Le territoire de Chabunda a été l'entité la plus touchée avec 5 véhicules braqués. Les enlèvements ont été en hausse au cours du mois de janvier 2024. 24 personnes ont fait l'objet d'enlèvements contre 14 au cours de décembre dernier, lit-on. Cette structure regrette que, pour faire face à l'insécurité et répondre à la carence de l'autorité de l'État, la population a fait recours à la vindicte populaire au sud Kivu. SAGESEC Force Vive estime qu'il est temps que le gouvernement prenne la question sécuritaire avec plus de responsabilité afin de permettre à la population de vivre et mener ses activités en toute quiétude. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, un conflit foncier oppose depuis ce mardi jusqu'à la mi-journée de ce mercredi les habitants des groupements des Benashimba et les Benamwembia dans les territoires des Katanda. Les bilans provisoires fait état de 3 morts, 4 blessés grièvement, une école complètement détruite et toutes les maisons de la localité de Bakwachitongu incendiées. L'autorité provinciale a convoqué d'urgence la réunion du Conseil provincial de sécurité au gouvernorat des provinces pour trouver des solutions à cette situation. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les sources concordantes affirment que les affrontements armés ont commencé ce mardi soir entre les habitants des groupements de Benashimba et de Benamwembia qui se soupçonnent mutuellement d'avoir exploité la zone tampon interdite à toutes les communautés de ces territoires. Les forces de l'ordre venues pour s'interposer ont été également la cible des attaques. La même source signale qu'il y a eu échange de tirs entre les protagonistes et les forces de l'ordre. Autour du soir, quelques habitants de Benamwembia ont barricadé la RN2 pour empêcher le passage. C'est ainsi qu'un véhicule en provenance de Mbujimayi vers Kabinda via le territoire de Katanda a essuyé des tirs. Deux personnes à bord de ce véhicule ont été atteintes par balles dont le convoyeur. Deux autres passagers ont été blessés grièvement. Le convoyeur atteint par balle est tombé du véhicule à l'insu du conducteur et son corps a été retrouvé sur la route. Ces faits sont confirmés par l'administrateur du territoire de Katanda. Les sources sécuritaires précisent qu'une autre personne de la communauté a succombé au cours des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est depuis la nuit dernière que les habitants de Mwembia ont vidé leur localité. Déjà ce mercredi, toutes les maisons de la localité de Bakwachitongu ont été incendiées et une école primaire construite avec le financement de l'UNICEF vient d'être complètement détruite. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Kwilu, les prix des biens de première nécessité ont augmenté sur les marchés d'Idiofa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. C'est notamment le cas de plusieurs produits agricoles et manufacturés. Situation qui complique la survie de plusieurs familles de cette cité, ont affirmé les sources locales. La nouvelle société civile congolaise de cette entité territoriale attribue cette flambée des prix, notamment au taux élevé d'échange des dollars américains. Arsène Kassiama, son coordonnateur, demande au gouvernement de revoir ces taux afin de réduire cette tension que vit la population au quotidien. Les points avec vous, Irène Mbomaluzolo.
Par exemple, un basset de maïs jadis vendu à 15 000 francs congolais revient aujourd'hui à 22 000. Une mesurette de farine de maïs qui se vendait à 500 francs s'achète présentement à 1 000 francs congolais. Celle de cossette de manioc est passée de 1 000 à 2 000 francs. Un petit poisson chercheur de taille dite 16 moins revient maintenant à 2 000 francs au lieu de 1 000 francs congolais. Cette flambée de prix qui s'observe à Idiofa alors qu'il n'y a pas rareté sur les marchés concerne également les piments, les légumes, les savons de lessive ou de toilette, les sels, les sucres, les épices, etc. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile d'Idiofa qui alerte, la hausse des taux d'échange des dollars américains ainsi que l'existence d'un marché privé dans cette cité sont à la base de cette surchauffe des prix. Arsène Kassiama en appelle à la responsabilité des autorités. Face à cette hausse des prix continuelle des denrées alimentaires, les ménagères disent éprouver d'énormes difficultés pour la survie de leur famille. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, 24 heures après la manifestation des enseignants issus des quatre territoires et quelques-uns de la ville de Kisangani payés par la Caritas, l'abbé coordonnateur de cette structure catholique, leur agent payeur, donne la paix. Selon l'abbé Ferdinand Batoubou, ces enseignants n'ont pas encore touché leur salaire du mois de janvier parce que le gouvernement congolais n'a pas encore alimenté leur compte bancaire. Le point avec Jacques Mukonkole.
Les manifestants sont des enseignants venus des territoires de Bafouassende, Banalia, Ubundu et Basoko. Quelques-uns issus des écoles urbaines payées par la Caritas se sont joints à leurs collègues de l'intérieur pour réclamer leur salaire du mois de janvier non encore payé jusqu'à ce jour. Bientôt, ils totaliseront donc deux mois sans salaire. Au lendemain de leur manifestation, le coordonnateur de la Caritas Développement donne de la voix. Pour M. l'abbé Ferdinand Batoubou, le compte de la Caritas n'est pas encore alimenté par le gouvernement central.
Le vrai problème, c'est celui qui peut bloquer ou peut payer facilement les enseignants, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement central ne donne pas l'argent à l'Église catholique ne peut rien faire parce que c'est le gouvernement qui paye les enseignants. Les enseignants peuvent compter sur notre bonne volonté.
Rappelons que lundi dernier, ces enseignants ont manifesté devant le siège de la Caritas Développement. Ils ont non seulement bloqué l'entrée principale, mais ils ont aussi allumé un grand feu. Ce matin, ils rôdent encore tout au long de ce bureau, tout en espérant recevoir les nouvelles relatives à leur paye. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef de la défense du Nigeria a exprimé mardi sa frustration face à ce qu'il a appelé les doubles standards de certains pays qui refusent de lui vendre des armes militaires en raison de leurs préoccupations en matière de droits de l'homme.
L'invité.
Les changements climatiques sont de plus en plus ressentis dans la ville de Lubumbashi. Il pleut de moins en moins et les agriculteurs redoutent que cela n'impacte négativement sur la production agricole de cette année. Pour certains experts, la solution à cette situation passe par les reboisements à grande échelle. Mais sur le terrain, cette opération bat de l'aile. Pour en parler, nous avons approché le président national de la société civile environnementale. Omer Kabasele s'entretient avec Jean Gandou.
Omer Kabasele, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jean Gandou.
La province du Haut-Katanga connaît certaines perturbations climatiques et beaucoup d'experts indiquent que cela serait dû à la coupe abusive de bois pendant que vous êtes dans une structure qui s'occupe du reboisement. Où en êtes-vous en ce jour?
Ce sont des perturbations saisonnières très sérieuses et tout le monde est en train de le voir. On n'a pas la pluviométrie que le Grand Katanga a toujours eu en pareille période. Pour le cas de la province du Haut-Katanga, c'est la déforestation à un rythme exponentiel. il y a des hectares de forêts qui tombent, qui disparaissent et qui malheureusement ne sont pas remplacés. Il y a une destruction systématique des forêts qui n'est pas accompagnée par des reboisements à grande échelle. Donc il n'y a pas proportionnalité entre la destruction et la restauration des écosystèmes forestiers.
Et pourtant, il y a quelque temps, on vous a vu ce que d'autres ONG en train de reboiser. À ce jour, combien de plantures ont été mises sous terre?
L'année passée, on a réussi avec le Fonds forestier national à avoir un accompagnement financier pour la toute première campagne de reboisement à grande échelle sur l'ensemble de la province. On a eu à réaliser ces reboisements dans tous les territoires du Haut-Katanga. On a fait également un travail semblable dans la province de Lualaba. Et il faut dire que ce sont ces deux grandes provinces qui font que le taux de la déforestation soit très élevé à cause de la présence des grosses entreprises minières qui travaillent à plein régime. Et c'est dire aussi que ce sont les deux provinces qui contribuent notablement aux recettes du Fonds forestier national. L'année passée, on a reboisé plus de 158 hectares répartis sur les 6 territoires du Haut-Katanga. Et on a fait également une centaine d'hectares dans les Lualaba, ce qui n'était pas suffisant par rapport au rythme de la déforestation, mais c'était un début. Cette année, je pense que vous l'avez constaté, nous ne sommes pas sur tout l'ensemble de la province. Pourtant, on devrait consolider les acquis de la première campagne et étendre les étendues à reboiser, parce que la déforestation, elle continue.
Et les 158 hectares que vous avez reboisés, sur quelle étendue attendue?
Nos prévisions envisageaient réaliser même 500, 600 hectares pour la première campagne, avec en moyenne 100 hectares de reboisés dans chaque territoire. Ça, c'est selon ce qu'on a fait comme évaluation au niveau de la société civile environnementale. Mais on n'a pas atteint. Bon, le partenaire a donné les moyens qu'il avait sous la main et ça nous a permis à réaliser 158 hectares pour le Haut-Katanga et 100 pour le Lualaba.
Les entreprises contributrices, notamment les entreprises minières, refusent de continuer à subventionner cette opération au motif qu'elle paye déjà au Fonds forestier national. Ne pensez-vous pas qu'elles vont continuer à couper les arbres et vous allez continuer à attendre les financements qui ne viendraient peut-être pas et donc un travail voué à l'échec?
Vous savez, le Fonds forestier national a l'obligation de financer les opérations de reboisement parce que c'est ça son objet social. Et ce qui est aussi vrai, vous l'avez vu sur terrain, les entreprises minières ne sont plus prêtes à appuyer financièrement les opérations de reboisement. Parce qu'elles disent, et elles ont raison, que nous payons ce que nous devons au Fonds forestier national. Et le Grand Katanga, c'est l'espace hautement industriel, donc minier. Et nous, société civile, participons à la sensibilisation de ces miniers pour payer. Et depuis 3 années que nous travaillons en partenariat avec le Fonds forestier national, en sensibilisant ces industriels, les recettes sont historiques pour le Grand Katanga. C'est historique parce que nous travaillons en synergie avec le Fonds forestier national. Donc, voir l'échec, c'est la crainte que nous avons, mais nous pensons que notre partenaire est responsable et ne laissera pas les investissements être bousillés faute de financement. La direction générale est en train de se battre et nous pensons que d'un moment à l'autre, nous allons avoir les financements pour sécuriser ce qu'on est en train de faire dans les 3 territoires et être à même aussi d'encadrer ce que nous avons fait l'année passée sur les 6 territoires. Les 3 autres territoires qui ne sont pas concernés pour cette campagne, nous pensons que si les moyens sont là, il y a moyen de conserver les acquis de l'année passée et d'être en mesure de sécuriser ce que nous sommes en train de faire cette année sur préfinancement de la société civile.
Omer Kabasele, je vous remercie.
C'est à nous de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Pierre Diassinoir, supervision et coordination, Martin Seboujangwe et Élisée Tchikota. À la présentation, Patience Ngalula. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.